Le journal de la fin de journée avec vous, Sonia Bernauer-Mia. Bonsoir.
Bonsoir. Le retour à la normale va prendre du temps sur les plans d'eau de la région. La situation est sous contrôle, mais la décrue ne s'est pas encore complètement amorcée sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne. L'électricité a dû être coupée dans plusieurs ports ce week-end. Pointage également du côté du barrage du Châtelot. 150 opposants montent au front contre le pôle de développement économique à La Tène. Certains habitants craignent l'augmentation de nuisances sonores avec la création prévue de 3000 emplois. Les footballeurs du FC La Chaux-de-Fonds remettent le bleu de travail. Ils entament ce soir leur préparation en vue du championnat de Première Ligue et ils sont sous les ordres de leur nouveau coach, Vincenzo Meo. Soleil et chaleur seront encore au menu météo de demain, un temps qui devrait nous accompagner au moins jusqu'à jeudi. Le soleil est de retour, mais la baignade reste interdite dans les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Le niveau du lac de Neuchâtel a grimpé à un niveau record de 430,73 cm à Yverdon-les-Bains ce matin à 9h. La situation s'est stabilisée sur les plans d'eau. Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal neuchâtelois.
Les niveaux de ces deux lacs ne se sont pas abaissés pour l'instant. On a, je dirais, deux explications principale à ce phénomène, malgré le beau temps et le fait qu'il n'y ait plus de pluie depuis deux jours, trois jours maintenant, c'est qu'on a d'une part un effet où, bien sûr, la tielle s'est inversée, c'est-à-dire l'écoulement va du lac de Neuchâtel au lac de Bienne. Cependant, dans le lac de Bienne, on ne peut pas libérer des quantités extraordinaires d'eau, puisqu'on doit préserver finalement ce qui se trouve à l'aval du lac de Bienne. Et d'autre part, qu'on a un canal de Haguenec avec l'art qui arrive de l'Oberland bernois et de Thun et de Berne, avec des quantités d'eau encore importantes, ce qui fait que l'apport d'eau dans le lac de Bienne et puis ce qui peut en sortir, en fait, représente une quantité d'eau qui n'est pas très importante et pas suffisante en tout cas pour permettre un abaissement rapide des lacs de Bienne et de Neuchâtel et de Mora. Et puis, le deuxième phénomène qu'on a, c'est probablement, mais ça c'est beaucoup plus difficile à appréhender, c'est le fait que beaucoup de terrains aux abords des lacs, sur les rives, sont imbibés, font rétention. Les nappes sont très hautes aussi, et puis elles sont en train de, ces terrains et ces nappes sont en train de rendre toutes ces eaux accumulées dans les lacs, ce qui fait que les lacs sont en fait réapprovisionnés sur l'ensemble de leurs rives. Et donc aujourd'hui, malgré encore une fois la fin des précipitations et puis un écoulement qui se fait normalement maintenant du côté de l'exutoire du lac de Bienne, eh bien les niveaux ne descendent pas. Et même quand ces niveaux commenceront à descendre, les quantités d'eau accumulées dans les trois lacs sont tellement importantes et les débits de restitution à l'aval du lac de Bienne sont beaucoup moins importants. Et donc, on aura de toute manière un abaissement des lacs qui va prendre plusieurs semaines avant de se retrouver à des niveaux usuels pour la saison.
Et en raison de la poursuite de la montée des eaux ce week-end, l'électricité a été coupée dans plusieurs ports pour des questions de sécurité. C'est le cas à Haute-Rive. Martine Steyer-Burgos, conseillère communale en charge du dossier.
Il faut savoir qu'à Haute-Rive, tout est sous l'eau. Donc l'accès au ponton est sous l'eau, l'accès aux bâtiments, que ce soit restaurant, du Silex, la capitainerie, les WC publics, tout est sous l'eau. Donc on a été obligé de couper complètement l'électricité pour éliminer tout risque d'électrocution des gens qui passeraient avec les pieds dans l'eau.
Et donc ça concerne aussi les plaisanciers ?
Oui, les propriétaires de bateaux qui sont locataires chez nous, on leur demande de passer régulièrement contrôler leurs amarres, donc ils doivent effectivement passer dans 30 cm d'eau pour accéder à leur bateau.
J'imagine que ça va dépendre de la décrue, mais ça pourrait durer combien de temps et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire pour assurer la sécurité ?
On vient de recevoir une information des électriciens comme quoi la remise du courant ne serait pas faite avant au plus tôt la semaine prochaine. Parce qu'il faut non seulement attendre que le niveau de l'eau baisse, mais il faut aussi procéder aux opérations d'assèchement des installations et puis bien sûr de contrôle avant la remise en état.
Un dossier proposé par Sarah Massy. La baignade et la navigation sont donc toujours interdites dans le lac de Neuchâtel. Le scan suspend ainsi momentanément les expertises bateaux et les examens pratiques de navigation. Et puis trop d'eau, c'est moins dangereux que pas d'eau du tout pour la faune aquatique. Dans le Doubs, le débit est haut, mais pas exceptionnel, assure Thierry Christen, le vice-président de la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière. Les poissons et autres habitants du cours d'eau sont donc pour le moment en sécurité, mais ça pourrait changer avec la décrue. Pointage au barrage du Châtelot avec Thierry Christen.
Maintenant, on est sur un débit naturel. On a 62 millilitres/secondes. Le barrage est capable d'en turbiner 46. Donc, d'ici un ou deux jours, c'est le barrage qui va décider du débit du Doubs. Donc, beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années. Donc, dans les premiers paliers, ça ne nous crée plus trop de problèmes pour la faune aquatique. Pour les macro-invertébrés, c'est plus problématique. Mais pour les poissons, c'est réglé. On n'a pas trop de soucis. C'est le dernier palier encore qui nous crée. Là, on va aller sur place. On va aller voir sur place, sur le terrain.
Le dernier palier, c'est un petit peu comme quand le barrage décide de fermer le robinet.
Exactement. Quand il n'y a plus de demande de consommation, il va réduire jusqu'à 9000 litres/secondes et d'un coup, il va fermer à 2000 litres/secondes. Ce que la nature ferait en 10, 15 ou 20 jours, on va le faire en 2 heures de temps.
Et alors là, pour la faune, qu'est-ce qui se passe ?
Ben là, concrètement, on a des verrons, des truitelles, des ombrées qui venaient de naître, qui vont rester sur les berges à sec. Bon, c'est un problème connu. On cherche des solutions. On en a, mais pour l'instant, on tergiverse un petit peu.
Des propos recueillis par Claire Viget. Durant les épisodes orageux de ces dernières semaines, les steppes ont aussi été fortement sollicitées. La population est donc appelée à ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes ou les grilles d'évacuation. La création d'un pôle de développement économique à l'Athènes s'accompagnera d'une hausse de trafic. C'est l'une des craintes des quelques 150 opposants qui se sont manifestés jusqu'à aujourd'hui, selon le mouvement L'Athènes en transition qui porte cette opposition. Le délai se termine ce soir. Le projet prévoit le bétonnage de terres agricoles sur 23 hectares entre Marin-Centre et le village d'Épagnier. 3000 emplois devraient y être créés. La commune pourrait dans la foulée accueillir près de 500 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 10% de sa population. Pour les opposants, le sacrifice des terres agricoles et l'augmentation des nuisances sonores dans le secteur ne passent pas. Clémence Planas, membre de l'Athènes en transition.
Le projet va attirer une forte pendularité, ça a d'ailleurs été souligné par le Conseil d'État. Et puis évidemment, de facto, le trafic automobile va augmenter. Cette zone-là est déjà abordée par les chemins de fer, par l'autoroute. Il y a déjà des nuisances sonores et là, on va en rajouter encore plus. Et ça, ça va vraiment péjorer la qualité de vie des Laténiennes et des Laténiens.
Et d'où, selon vous, l'idée que d'autres n'auraient peut-être pas envie de s'y installer non plus ?
Oui, ça va ensemble, effectivement. Un projet de cette envergure-là, à notre sens, doit vraiment avoir l'adhésion de la population, peut-être par un vote populaire, et c'est en tout cas pas le cas. Rappelons aussi que cette mise à l'enquête, elle a été faite durant la période de vacances scolaires, ce qui pour nous est fortement contestable. Ça nous a laissé très peu de temps pour trouver des opposants, qu'on a trouvés facilement. Mais voilà, les manœuvres du Conseil d'État sont largement critiquables.
Et ce pôle économique de l'Athènes serait le troisième du canton après ceux du Crêt du Locle et de Boudry. Un pas en direction des citoyens qui hésitent à se faire vacciner. L'Office fédéral de la santé publique et les autorités suisses sont disposés à faciliter l'accès à la vaccination. Et pour ce faire, un camion circule dans le canton de Berne qui permet d'aller se faire vacciner sans rendez-vous. Il faudrait certainement plusieurs camions de ce genre pour augmenter le taux de vaccinés. Le ministre bernois de la Santé, Pierre-Alain Schneeg.
Oh, je ne sais pas s'il en faudrait des dizaines et des centaines. Dans ce camion, on a vacciné maintenant pendant 2 mois. C'était tous les jours 500 personnes qui recevaient le vaccin, souvent dans des régions que l'on appelle périphériques, qui n'avaient pas de centre de vaccination à proximité. Et la population a beaucoup apprécié d'avoir cette possibilité de se faire vacciner. Et c'est pour ça que nous allons démarrer tout de suite après les vacances une deuxième tournée du même style. Si nous atteignions 70 à 80% de la population vaccinable vaccinée, ça serait un énorme succès. Je pense qu'il est toujours préférable d'avoir des anticorps plutôt par la vaccination que par la maladie. Nous nous battons pour augmenter ce taux chaque jour.
Et pour remercier ceux qui se sont déjà vaccinés, la Confédération a servi aujourd'hui sur la place fédérale à Berne un gâteau symbolisant la vaccination de 2/3 des adultes. Les deux pilotes sont connus, Bertrand Piccard et André Borschberg s'étaient relayés lors d'un tour du monde à bord de Solar Impulse. Mais c'est avec un autre avion électrique que les deux aventuriers ont survolé Sion aujourd'hui. Devant une foule d'invités, ils ont embarqué à bord du Bristol Energic peu après midi. Ce vol était l'occasion de promouvoir le zéro émission de CO2 pour l'aviation et de célébrer aussi les 5 ans de l'atterrissage de Solar Impulse à Abu Dhabi. Avant le décollage de l'appareil, Joël Espy a tendu le micro aux deux pilotes et Bertrand Piccard était déjà ravi du chemin parcouru.
Très heureux de pouvoir montrer que l'aviation électrique évolue, avance. Il y a 5 ans, on devait voler séparément sur Solar Impulse, une seule personne à la fois. Maintenant, c'est André et moi ensemble en biplace. Et vous verrez que d'ici 2-3 ans, ça va être 10 personnes, 20 personnes. Donc l'aviation propre est en marche.
Une appréhension, ça fonctionne bien cet appareil?
Je connais André depuis plus de 20 ans et je peux vous dire que quand il fabrique quelque chose, je fais confiance.
Non mais c'est que j'ai beaucoup volé dedans, donc c'est vrai que c'est la meilleure démonstration qu'on y croit. Hein.
Et cet avion électrique est destiné à être utilisé dès 2023 par les écoles de pilotage pour des courts parcours. Le canton du Jura va contribuer à la renaissance de Notre-Dame de Paris. Le groupe Corba a été sélectionné pour être associé au chantier de reconstruction de la cathédrale victime d'un incendie le 15 avril 2019. L'entreprise jurassienne est chargée de scier une partie des quelques 1200 chaînes nécessaires pour la nef, la flèche, le chœur et le transept de Notre-Dame. Le groupe Corba consacrera 2 jours de travail offerts par l'entreprise à cette opération cet automne. Il sera ainsi associé au façonnage de la plus grande charpente en chêne massif du monde. Le directeur adjoint de la société fait part de sa fierté, même si le rôle de son entreprise sera limité. Gauthier Corba.
C'est vraiment un symbole parce qu'après, c'est les pièces de charpente qui sont particulières, où il y a un soin, encore une fois, tout particulier qui sera mis pour les réaliser. Je dirais que ça représente aussi une valorisation du savoir-faire local et de notre entreprise, puisque je pense qu'on est choisi aussi par rapport à notre positionnement de principale scierie de feuillus du pays. Après, au-delà de ça, c'est peut-être 2 journées de travail. Hein. On n'a pas obtenu le lot le plus important de toute la filière pour réaliser cette fameuse charpente.
Mais c'est 2 journées de travail pour Notre-Dame de Paris.
C'est vrai que c'est 2 journées de travail qu'on offre, si vous voulez, volontiers à ce projet, parce que je crois que le symbole est suffisamment fort et puis l'émotion à l'époque était suffisamment grande pour que les principaux concernés, on va dire, par cette charpente se donnent la main et puis participent à ce très beau projet.
Des propos recueillis par François Comte. Le bilan des inondations est revu à la hausse en Allemagne. Au moins 165 personnes ont perdu la vie selon un nouveau point de situation. De nombreux habitants sont par ailleurs toujours portés disparus. Les autorités ont promis d'améliorer le système national d'alerte catastrophe. La protection civile allemande est notamment accusée de ne pas avoir informé suffisamment tôt les personnes situées dans les zones inondables de la gravité des crues.
Vous écoutez RTN, il est 18h13.
Sport. Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds rechaussent les crampons. Ils reprennent l'entraînement ce soir en vue de la prochaine saison de Première Ligue de football. Un nouvel entraîneur est à la barre de l'équipe, Vincenzo Meo. Ce Ballois de 47 ans succède à Christophe Drault qui avait assuré l'intérim durant les 4 derniers matchs de la saison. Sous la direction de Christophe Drault, le FCC a sauvé sa place en Première Ligue, remontant à la 7e place du classement. Vincenzo Meo aimerait poursuivre dans la continuité du bref mais bon travail accompli par son prédécesseur. Il devrait aussi pouvoir se reposer sur un effectif assez stable, ce qui est un atout pour Vincenzo Meo.
On va essayer de prendre la bonne lancée du fin de championnat qu'ils ont eu. N'oublions pas qu'ils ont fait quand même si c'est un championnat spécial, seulement sur un tour, mais ils ont quand même pu rattraper ces derniers matchs qu'ils ont joués et remonter le classement pour atteindre au final la 7e place. N'oublions pas non plus la qualification pour le prochain tour de Coupe Suisse. Tout ça amène quand même une certaine euphorie et on va essayer de travailler dans la continuité et prendre cette lancée avec.
Il vous faut quand même au sein de cet effectif quelques éléments expérimentés parce que vous m'avez dit, pour l'instant, c'est une équipe qui est jeune.
Expérimentés, oui et non. On a quelques joueurs expérimentés. On a des joueurs qui sont quand même de bonne, grande valeur, qui doivent être peut-être encore formés dans certains détails. Je ne suis pas forcément fixé sur des expérimentés, plutôt sur des gens qui ont faim, qui ont cette volonté, qui ont envie d'adhérer à ce projet. Peu importe l'âge, je dirais, mais plutôt la motivation, l'envie de vouloir faire bouger quelque chose. J'ai fait les expériences que des fois. un jeune qui a envie vous ramène, vous apporte plus peut-être qu'un joueur qui est expérimenté mais qui arrive gentiment à sa fin.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander, le FC La Chaux-de-Fonds entamera le championnat samedi 21 août à domicile contre Vevey United. Mais avant cela, un autre rendez-vous l'attend. Elle accueillera le FC Lugano, club de Super League, vendredi 13 août au premier tour principal de la Coupe de Suisse. Et Michael Lang fait son retour au FC Bâle en Super League de football. L'international suisse quitte le Borussia Mönchengladbach avec effet immédiat après avoir signé jusqu'à l'été 2023 avec le club rennais. Le roi Tadej Pogačar, le prince Wout van Aert, si le Slovène a remporté hier son deuxième Tour de France, le deuxième consécutif, le Belge a aussi brillé sur les routes de l'Hexagone. Le cycliste de la Jumbo-Visma a signé une performance rare sur cette 108e édition. Wout van Aert a remporté une étape de montagne, un contre-la-montre et un sprint massif. Notre consultant cyclisme, Christophe Moreau.
On est aussi ébloui dans un autre contexte, un autre domaine, bien évidemment par rapport à Pogačar qui donne la prime à la jeunesse. Là, c'est un solide compétiteur, un solide athlète qui vient du milieu du cyclocross. Tout le monde le sait, il est champion du monde, multiple champion du monde depuis les années junior, espoir et évidemment senior. Il est venu à la route comme son concurrent Mathieu Van Der Poel. Il a touché la route depuis quelques années et d'année en année, il progresse. On l'a vu l'année dernière sur le Tour de France, gagner des sprints. On s'est dit, OK, il va vite au sprint. Il gagne un contre-la-montre, OK, il va vite en contre-la-montre. Et puis maintenant, dans le Ventoux, il est capable de s'extirper sur une échappée au long cours. Et je crois qu'on peut rassembler ces trois étapes qu'il a gagnées, qui sont complètement différentes, contre-la-montre, montagne et sprint massif. On doit remonter aux années Merckx, qu'il y a avec le grand Eddy Merckx qui avait égalé sur ces trois domaines différents, sur un Tour de France ou sur en tout cas une course de trois semaines, une performance de ce ressort. Donc c'est vrai que Wout van Aert, je pense qu'il ne sait même pas où il peut s'arrêter aujourd'hui en gagnant encore sur les Champs-Élysées sur la dernière étape.
Notre consultant cyclisme Christophe Moreau est à mon tour de vous souhaiter maintenant une excellente soirée.
Merci beaucoup Sonia. Petit point météo et après toute la musique que vous aimez sera au programme à 18h17. Et vous l'avez remarqué, cette première journée de la semaine a été passablement sous le soleil et ce malgré quelques cumulus qui doivent encore se développer sur le Jura. L'été s'installe tranquillement sur notre région. Pas très longtemps, mais au moins il est là pendant en tout cas quelques jours. Demain, on va prendre les mêmes et on recommence selon les experts de Météo News avec un temps bien ensoleillé en toute région. Côté thermomètre, on sera plus ou moins dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui avec des températures entre 13 et 18 degrés le matin. Ça ira jusqu'à 23 sur les hauteurs du canton et jusqu'à 27 à 28 degrés pour le littoral, la Broye et le Nord Vaudois au meilleur de la journée. À partir de mercredi, météo pleinement estivale, ensoleillée et chaude. Et profitez-en car ça risque de se gâter en fin de semaine et dans le week-end à venir.